Les marchés capitalistiques renforcent un système toujours plus autoritaire et destructeur au sein même de notre modèle de société. La logique du capitalisme se base sur la compétition et la croissance infinie. Elle nourrit les conflits armés et elle hypothèque la vie sur la planète. Dès lors, que faire et vers où aller? Après Bilbao et Lyon, Liège accueillait en septembre 2019 les rencontres internationales de l'écologie sociale, à la lecture de la pensée de Murray Bookchin, qui ouvre des perspectives et procure des outils pour une société libre. L'oratrice est Annick Stevens de l'Université populaire de Marseille.
Je sais bien qu'en fait, il y a beaucoup de personnes présentes ici qui savent très bien ce que c'est l'écologie sociale, qui viennent spécialement pour ça, pour essayer de construire un mouvement autour de l'écologie sociale. Et donc, je m'excuse auprès d'elles de reprendre des rudiments, mais parfois, c'est bien aussi de synthétiser et puis de savoir vers quoi on va, parce qu'on pourra s'appuyer sur ces rudiments dans les ateliers qui vont venir les jours prochains. Et puis par ailleurs, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont envie d'être informées, et donc ça s'adresse principalement à elles, pour dire donc d'où vient ce mouvement de l'écologie sociale, quelle est sa particularité par rapport aux autres formes d'écologie, et pourquoi on essaye maintenant d'avancer dans l'écologie sociale? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et donc finalement, ça rejoindra le but de ces rencontres. Donc l'écologie sociale, c'est un type d'écologie radicale. Radicale au sens de qui veut aller à la racine des problèmes écologiques. Et donc qui identifie comme racine des problèmes écologiques la forme de société qu'on a. Donc c'est pour ça qu'elle est sociale. Parce qu'en fait, à la racine des problèmes, c'est l'organisation sociale qui se trouve. Et une organisation sociale qui est fondée essentiellement sur l'exploitation et la domination, à la fois des hommes et de la nature. Et tout ça, d'après son théoricien principal, tout ça est complètement lié. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un combat écologiste qui ne tienne pas compte de cette liaison entre l'organisation sociale, économique, politique et les problèmes écologiques qu'on est en train d'affronter. Donc, ce fondateur, c'est Murray Bookchin. Donc, il y a des tas de bouquins qui sont en train de paraître, d'être traduits en français de lui. Qui était paru en anglais déjà parfois depuis des décennies, mais il n'était pas mis en avant. Et maintenant, donc, il commence à être vraiment diffusé, traduit. Pourquoi? Mais en particulier parce qu'il se passe dans le monde des mouvements qui mettent en pratique, en fait, la théorie de l'écologie sociale. Et donc, on le savait déjà pour le Chiapas, et maintenant, ça, depuis quelques années, ça commence aussi avec les Kurdes de Syrie du Nord, donc au Rojava. Il y a vraiment la mise en place d'un système qu'on peut appeler communaliste, et qui ressemble beaucoup au communalisme ou municipalisme libertaire que proposait Bookchin, et qui était la partie organisationnelle, politique de l'écologie sociale. Et donc c'est en fait grâce à ces réalisations dans certaines régions du monde, on peut trouver d'autres exemples, hein, j'ai donné les deux, disons, les plus, qui ont la plus grande ampleur et durée, mais il y en a d'autres et d'autres expériences. Et donc c'est parce que c'est en train d'être mis en pratique qu'ailleurs on redécouvre aussi cette théorie qui est quand même déjà ancienne. Et c'est très important, je pense, de bien se rendre compte de en quoi c'est différent, soit d'un côté de l'environnementalisme ou d'un citoyennisme écologique ou du capitalisme vert, hein, ou d'une manière de passer par l'écologie politique, donc d'un côté. Et de l'autre côté, c'est aussi différent de certains mouvements d'écologie profonde qui sont, je vais y donner un peu plus de détails, mais qui sont en gros plutôt primitivistes et très méfiants envers tout ce qui est le monde technique. Organisation technique. Donc Bookchin, il n'est ni d'un côté ni de l'autre. Donc l'écologie sociale, en quoi est-ce qu'elle est profondément liée au système économique d'abord. Bon, en fait, comment Bookchin s'en est rendu compte? Lui, tout est lié à son histoire personnelle. Donc, il est né en 21 à New York de parents russes réfugiés, enfin émigrés parce qu'ils étaient anti-tsaristes. Et il a été nourri donc de toute l'histoire de la révolution russe. Et donc, il part avec cette idée révolutionnaire. Il devient ouvrier très tôt, à 18 ans, il quitte l'école et il ne va d'ailleurs jamais la reprendre. Tout ce qu'il sait, il l'aura étudié après en autodidacte. Donc il est ouvrier, il se syndicalise, il découvre l'exploitation, il découvre la pénibilité du travail parce qu'il est dans la métallurgie, c'est très dur. Il se dit, c'est pas possible ce système, il faut absolument avancer dans l'automatisation pour délivrer les hommes de cet âge qui sont ingrates, qui sont pénibles et qui n'apportent rien et qui abrutissent en plus. Parce que les gens, après leurs 8 heures d'usine, ils sont abrutis, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Et c'est comme ça, en fait, que tout le temps dans lequel on pourrait développer des relations à la fois donc, d'un côté politique ou bien toutes les relations, activités sociales, culturelles, épanouissantes, tout ça est rendu impossible par ce travail abrutissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va toujours garder. Ne pas renoncer à l'automatisation des tâches nécessaires mais pénibles pour se délivrer. Et donc, il prône depuis le début et jusqu'à la fin une diminution radicale du temps de travail. Travailler le moins possible, juste pour assurer les besoins. Et c'est là qu'on fait le lien aussi avec la question de un premier lien avec l'écologie, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire tout ce qu'on produit. Et ça, très très tôt, il le dit. Dès les années 50, il est dans des mouvements qui prennent conscience du gros problème écologique, donc qui est à la fois la pollution de tous les éléments naturels, le fait que on vit dans des environnements qui sont insupportables, on mange de la merde, on respire de la merde. Et bien sûr, déjà, parce que, enfin, bien sûr, c'est même parfois étonnant de constater que déjà, il sait, il prévoit, il l'a lu dans des rapports scientifiques, qu'il va y avoir un réchauffement de la planète et que ça va être encore plus cause de destruction. Donc tout ça, il s'est renseigné là-dessus. Et donc il dit, pourquoi est-ce qu'on a... Première chose, c'est pourquoi produire autant de choses? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire autant? Alors bien sûr, il y a une double réponse. Le désir de nouveauté, le désir de posséder, le désir donc une réponse, si on veut, psychologique. Mais d'où vient ce besoin psychologique? En fait, il est complètement fabriqué. Il est complètement fabriqué parce que le système a besoin de vendre sans cesse des nouveaux produits, a besoin de vendre sans cesse plus. Et donc... pourquoi est-ce qu'il a ce besoin et pourquoi il le suscite avec la publicité, avec tout ça? Parce que c'est un système qui, si il ne s'accroît pas, il tombe. Ainsi, il n'avance pas, il régresse et il s'effondre. C'est un système qui est organisé de telle manière que s'il n'y a pas constamment plus de profits qui rentrent, il s'effondre. Et ça, c'est un problème qui est lié à la concurrence de l'actionnariat, donc qui est vraiment lié au système de l'actionnariat, donc au capitalisme en tant que tel. Si les actionnaires ne gagnent plus assez d'argent pour le capital qu'ils ont investi dans une certaine entreprise, ils le retirent et vont le mettre ailleurs. Donc toujours, ils vont le mettre chez le plus offrant, chez ce qui va leur apporter le plus de dividendes, sans aucune considération, ni évidemment de est-ce que ça va faire s'effondrer cette entreprise et donc mettre tout le monde au chômage, et ni si ça va occasionner un dumping écologique, c'est-à-dire qu'à cause de ça, en fait, les entreprises vont devoir le moins possible dépenser d'argent pour tout ce qui est précaution environnementale. Et donc, voilà comment on pollue à tout craint. On considère aussi bien les choses que les hommes comme des pures marchandises, exploitables à merci, hein, exploitables jusqu'au bout. Et c'est vraiment inhérent au système. Donc il dit, si on ne détruit pas ce système capitaliste, on ne le remplace pas par une autre économie, on ne résoudra jamais le problème écologique. Et ça, maintenant, il y a des tas d'études qui reprennent cette relation-là et qui le disent de toutes les façons. Ça ne sert à rien d'essayer de rendre la production moins polluante, ou bien de multiplier des techniques d'épuration, des techniques de nettoyage de l'atmosphère. Ça, c'est de la vaste blague. Ça ne marchera jamais, parce que le système va continuer à devoir faire toujours plus. Et tout simplement, on essaie d'invisibiliser ceux à qui on nuit. Je veux dire, on va polluer ailleurs, on va exploiter ailleurs, c'est tout. Donc, des arguments en faveur de cette relation, il y en a plein de nouveaux depuis lors. Mais donc voilà le premier constat de Bookchin, déjà dans les années 50. Et donc il s'engage pour alerter là-dessus. Et il écrit plusieurs bouquins tout au long, surtout il est il a une production très vigoureuse pendant les années 60. Et il montre aussi comment c'est lié en fait au système politique et qu'une autre illusion serait de faire appel aux États pour contrer le capitalisme ou les excès du capitalisme ou pour essayer d'établir des normes environnementales ou des normes sociales. Il dit c'est pas la peine, ça c'est une illusion parce qu'en réalité les gouvernements qui sont issus du vote et donc qui sont dans le système de démocratie représentative, ça forme une classe de professionnels qui, en fait, si on regarde bien, légifère constamment en faveur du capitalisme, jamais contre lui. Ce sont les lois qui établissent comment est répartie la propriété, ce sont les lois qui établissent comment est investi le capital, ce qu'il rapporte. Ce sont les lois qui établissent le salaire minimum, qui établissent les droits des travailleurs. Tout ça, c'est légiféré par les États. Si les États, les gouvernements, avait vraiment souhaité défendre à la fois les hommes et la nature, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils auraient légiféré pour modifier complètement ce système de fond en comble. Pourquoi ils ne le font pas ? On sait bien qu'il y a des collusions simplement parce que c'est la même classe sociale. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les grands conseils d'administration, des banques, des multinationales, etc. Ils travaillent pour eux. Voilà, ce n'est pas compliqué. Là aussi, des tas de bouquins ont montré et ont confirmé ça depuis lors. Donc, il faut arrêter avec cette illusion. Et donc, on avance donc vers une mise en question radicale à la fois du système économique et du système politique tel qu'il est. Et pour le remplacer par quoi, alors ? Donc, pour le remplacer économiquement par une économie premièrement fondée sur le besoin. Donc, on évalue quels sont les besoins qu'il faut vraiment satisfaire par la production et on supprime tout le reste. Donc, en arrêtant de produire des tas de choses inutiles ou qui ne font que compenser le mal-être en fait, qu'on ressent dans ce monde agressif, en n'ayant plus besoin de cette compensation, on aura beaucoup moins besoin de marchandises. Et donc, premièrement, on redéfinit les besoins. Et puis, deuxièmement, on décide comment on va organiser la production entre tous les gens d'une même entité territoriale. Et donc, toutes les modalités, toutes les conditions de production, on les définit ensemble. Bon, alors, c'est qui constitue ces entités territoriales ? Là aussi, c'est vraiment l'originalité de l'écologie sociale. C'est qu'elle dit... Il faut absolument décentraliser. La décentralisation, c'est vraiment ce par quoi il faut commencer. On ne fera rien avec ces énormes entités centralisées que sont d'abord les États, avec l'organisation pyramidale et avec tous ces transports qui dépassent aussi d'ailleurs les États et les continents. Et on n'arrivera à rien non plus tant qu'il y aura des gigantesques mégapoles, ces énormes urbanisations qui engendrent... Une pollution encore bien plus grande, puisque ça oblige à multiplier les transports. Ça fait une division entre la campagne qui produit l'alimentation et la ville qui est dans le tertiaire, éventuellement pour un petit reste de secondaire qui existe encore en Europe. Donc tout ça, il faut commencer par décentraliser, donc décomposer à la fois administrativement et physiquement. Alors, administrativement, c'est réalisable en premier lieu, c'est le plus réalisable tout de suite. Parce qu'en fait, il s'agit de reprendre localement le pouvoir politique. Le pouvoir politique au niveau local, il est encore assez accessible. Et ça, alors, il faut voir aussi comment nous, enfin, je pense que ce sera une des choses qu'on devra bien discuter entre nous pendant ces journées, c'est comment adapter ça à notre situation. Je veux dire que chaque législation nationale est différente par rapport à ses pouvoirs municipaux. Donc il faut voir chaque fois, dans chaque cas, où sont les brèches où on peut effectivement récupérer du pouvoir. Ce ne sera pas la même chose dans tous les pays, dans toutes les régions du monde. Et on voit bien que, au Chiapas, par exemple, pourquoi ils ont réussi à le faire, c'est qu'il y a très peu d'État. L'État est absent. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'État social, mais il n'y a pas non plus d'État coercitif. Donc, ils se sont installés dans cette brèche. Au Rojava, c'est un État de guerre. Je ne dis pas que la guerre a produit ça de bien, mais en tout cas, c'est parce qu'il y avait aussi là une vacance de pouvoir. qui a fait qu'ils ont développé à ce moment-là leur propre installation de pouvoir. Donc il faut voir comment faire avec nos conditions. Bookchin, lui, c'est après le grand mouvement aux États-Unis et en Europe, le grand mouvement de la fin des années 60, mai 68 en France, tous les mouvements pour aux États-Unis contre le Vietnam, les mouvements des jeunes, hippies, etc. Donc c'est après tout ça, quand ça a commencé un peu à retomber, parce que lui, il était super enthousiaste pour ces mouvements, et puis ça a commencé un peu à retomber, alors à ce moment-là, il est allé s'installer dans un État des États-Unis du Nord-Est, qui s'appelle le Vermont, qui est un État où il y avait déjà une tradition d'auto-organisation, d'association, par exemple de coopératives, de relations de consommateurs, etc., qui était assez actif. Et donc, c'est là qu'il est allé fonder son Institut pour l'écologie sociale. Et dans cet institut, donc, il utilisait ce tissu social en fait, pour faire des expériences écologiques, pour essayer de promouvoir des technologies écologiques et pour donner des cours aussi de type scientifique, anthropologique. Donc tout ça pour essayer de renforcer ce mouvement qui existait. Et il disait aux États-Unis, enfin il montrait comment aux États-Unis, justement il y avait encore beaucoup de restes d'indépendance du pouvoir local, parce que c'était l'histoire des fondateurs, en fait. Les fondateurs des États-Unis, ils avaient voulu une très grande indépendance locale. Et donc, il y a des chartes des municipalités, par exemple, aux États-Unis. Et donc, ils disaient, on peut changer la charte pour répartir beaucoup mieux le pouvoir politique, pour le donner à tout le monde. Bon, en Europe, il n'y a pas ça. Enfin, il n'y a pas tout à fait la même chose. Mais ils disent, c'est pas grave s'il n'y a pas exactement ça. C'est à chacun d'aller voir ce qui reste encore de possibilités de pouvoir dans sa propre organisation politique. Par exemple, il existe des communaux, c'est-à-dire des terres communales ou des possessions communales qui sont à moitié oubliées ou complètement enfouies sous autre chose, mais qu'on peut aller rechercher. Il existe même dans certains pays des sectionaux. En France, par exemple, il y a encore des vestiges des sections qui avaient, pendant les années de la Révolution française, qui... Donc des terres qui appartenaient seulement à des sections. Ce n'est même pas les municipalités, c'est plus petit. C'est des sections, c'est vraiment des petits quartiers ruraux. Et tout ça, on peut essayer de les retrouver et donc de refaire du commun. L'idée, c'est chaque fois refaire du commun, à la fois économiquement et politiquement. Alors, quand il propose, ça aussi c'est particulier à l'écologie sociale, quand il propose d'essayer d'établir une technologie qu'il appelle libératrice. Une technologie libératrice, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et donc, bien sûr, écologique. Donc, encore une fois, c'est sa particularité parce qu'il ne veut pas tomber dans la technophobie. Il ne veut pas dire la technique en soi, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, il faut revenir à un système, je dirais, néolithique, hein, sans que ce soit péjoratif, mais néolithique au sens où, bon, on cultive avec la force, je ne sais pas, animale ou disons de techniques très rudimentaires. Et on produit seulement de manière artisanale. Bon. Pourquoi il veut pas ça? Il dit, mais parce que forcément, ça veut dire qu'on va passer un temps énorme, parce que ce type-là de production, bah, ça demande d'y travailler toute la journée. Quoi. Et donc, on ne va pas se libérer. On va être peut-être... on peut refaire du commun, on va peut-être refaire du tissu social, tout ça, c'est bien, mais on va faire que travailler ensemble. On ne pourra pas épanouir d'autres activités auxquelles aspirent les êtres humains. Et ça, c'est l'héritage, justement, de 68 et ces années-là. C'est de dire, il faut libérer la vie quotidienne. Et ça, donc, il rajoute tout ça à son héritage précédent. Un héritage critique du capitalisme, marxiste, héritage écologiste, et puis l'héritage libérer la vie. Libérer la vie, on ne vit pas pour travailler. On ne vit pas juste pour survivre, pour avoir le nécessaire, pour satisfaire nos besoins biologiques. Ce n'est pas ça la vie, quoi. La vie humaine, c'est une vie où on n'arrête pas d'inventer des nouvelles choses, de créer artistiquement, de créer intellectuellement, d'avoir des relations nouvelles entre les gens. Et pour tout ça, il faut du temps. D'ailleurs, pour pouvoir décider de tout ça en commun, aussi, il faut du temps. Donc, il faut libérer du temps de travail. Donc, il faut de l'automatisation. Pas seulement, évidemment. Il faut aussi réduire les besoins. Ça, c'est ce qu'il avait dit tout de suite. Mais cette automatisation... Alors là, il profite du fait que dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur comment, justement, avoir une technique conviviale, par exemple. Convivial, c'est le mot de Ivan Illich. C'est-à-dire une technique qui ne demande pas une spécialité intellectuelle réservée à quelques experts, et qui ne demande pas non plus une centralisation, puisque ce qu'on veut, c'est décentraliser. Donc ça veut dire une technique, et en particulier une technique énergétique, qui est adaptable à chaque situation régionale particulière. Donc pour les énergies, c'est assez évident. On doit absolument adapter l'énergie naturelle à ce que chaque territoire peut offrir. Donc selon les territoires, ça sera plutôt du solaire ou de l'éolien, ou de la marée motrice, de l'hydraulique d'une manière quelconque, et d'autres aussi, parce qu'il dit il faut en inventer plus, il faut absolument qu'on continue à chercher et qu'on trouve quelque chose d'efficace pour nous libérer. Bon. En tout cas, déjà, tout ça qui est adapté, qui permet une nouvelle harmonie avec la nature, hein, bon, y a toute cette idée de retrouver une harmonie avec la nature, que la nature, ce n'est pas juste une ressource exploitable. Il y a une vraie relation avec elle, il y a un rapport esthétique avec la nature, il y a un rapport de bien-être, et c'est réciproque, enfin, je veux dire. Donc, pour retrouver ça, on va mettre au point ce genre de technique. Et aussi, elle est conviviale aussi parce que chacun peut la maîtriser, ou disons, un grand nombre de personnes peut la maîtriser. Ce sont des choses facilement réparables, ce sont des choses qu'on peut facilement bricoler soi-même, ou entretenir en tout cas soi-même. Et donc, ça enlève aussi la dictature des experts, la technocratie, qui fait qu'on est dépossédé progressivement de la décision, parce que simplement, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, on est obligé de s'en remettre à d'autres. Ça empêche aussi le pouvoir, évidemment, hiérarchique, de décider, et ça empêche l'argument que les États servent continuellement à ce genre de revendications, l'argument de la complexité. Parce qu'on nous dit tout le temps, mais les citoyens, ils ne peuvent pas décider de grand-chose puisqu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, c'est trop compliqué, il faut des experts. Donc ça répond, hein, ça évite cette objection-là. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Donc voilà le type de technique aussi libératrice qu'il propose. Et alors, comment il propose que ça se passe sur le terrain? Comment faire progressivement pour récupérer ça, puisque en partant de la situation présente? Bon, c'est énorme le travail à faire, et ça, il en était bien conscient, parce que ça va dans tous les domaines à la fois. Il faut agir dans tous les domaines à la fois. C'est-à-dire, il faut changer à la fois le désir et l'imaginaire des personnes, l'imaginaire des personnes, c'est-à-dire dans quoi les personnes se projettent, dans quel désir elles essayent de réaliser. C'est quoi pour les personnes une vie humaine bien réussie? Bon, il faut sauter de l'idée, bon, je pense que dans cette salle, tout le monde doit être tout à fait convaincu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout, sauter de l'idée que le bonheur, c'est l'accumulation, ou que le bonheur, c'est la place hiérarchique qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle. Oubliez ça, trouvez d'autres formes. Donc ça, c'est un des terrains sur lesquels il faut agir. Mais évidemment, en même temps, il faut donner les moyens de faire ça. Les moyens de faire ça. Donc les moyens de ne pas, par exemple, être esclave du salariat. Être esclave de son besoin... disons simplement de satisfaire sa survie. Comment ne pas être esclave de ça? L'idée, c'est évidemment créer des tas de moyens de survie collectifs qui ne dépendent pas ni des banques, donc réfléchir à comment s'emparer de manière pas trop précaire, hein, comme la manière squat-occupation qui est précaire. Donc comment s'emparer de moyens, disons, de production durable, commun, collectif, qui ne dépendent pas des banques, qui ne dépendent pas de l'État et qui ne dépendent pas, évidemment, du capitalisme. Comment faire des circuits d'échange pour que différentes initiatives se complètent, deviennent complémentaires et satisfassent progressivement les besoins. Alors tout ça, évidemment, on ne peut l'améliorer progressivement que si on se parle, si on se réunit, si on se définit mutuellement ce qu'on sait faire, ce qu'on aspire à faire. Et donc, il faut une assemblée locale qui ensuite pourra se confédérer avec d'autres assemblées locales chaque fois qu'il y aura besoin de passer à une échelle un tout petit peu plus grande. Puisque la base assembléiste, elle est en démocratie directe générale. Donc démocratie totale, directe, tout le monde est là, on se parle directement et on échange sur la meilleure manière de faire. Bon, ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas être des milliers, on ne peut pas dépasser un certain nombre. Et ça, c'est complètement assumé. Ça veut dire qu'il faudra ça fait partie donc de cette décentralisation extrême. Il faut absolument se réunir par quartier dans les villes, par village quand les villages sont petits, ou par portion de territoire rural. La grandeur et le nombre de personnes doit être évalué par chaque communauté en fonction de ce qu'elle estime être la taille possible pour un échange. Et là, Bookchin aussi, il a fait tout un travail théorique pour montrer comment ça avait été partiellement réalisé déjà dans le passé. En fait, il existe des tas d'exemples dans le passé dont on peut s'inspirer tout en les adaptant à ce qu'on veut maintenant, mais qui montrent qu'en fait, il a été réalisé pendant parfois de longues époques de se réunir à des milliers de personnes et discuter sur ce qu'on veut en commun. C'est possible. Donc c'est intéressant, et à différentes époques. Donc dans son livre, notamment sur le municipalisme libertaire, il y a vraiment une histoire de... Et encore, il en parle que pour le monde européen américain, parce que c'est ça qu'il connaissait bien, mais on peut encore en trouver des exemples dans d'autres continents aussi. Donc on peut se reposer aussi sur des choses connues, et on sait que c'est possible. Une fois qu'on sait que c'est possible, que c'est désirable, qu'il y a maintenant des tas de mouvements de jeunes, de gens qui se soucient du climat, de gilets jaunes, de gens qui en ont marre de la situation sociale, de gens qui en ont marre que le vote ne serve plus à rien, qui en ont marre du monde politique. Donc en fait, toutes ces forces qui existent maintenant, elles n'attendent que de se mettre ensemble pour réaliser. Alors, réaliser donc toutes ces mises en commun économiques, mais surtout, il faut que ça repose sur une certaine formalisation de la structure politique. Pourquoi il faut une formalisation ? Alors, je pense qu'il a raison, Bookchin, de dire qu'on ne peut pas se contenter de faire simplement ce qui a aussi existé dans l'histoire des mouvements révolutionnaires, c'est des conseils autour de la production. Conseils ouvriers, conseils de ruraux, de paysans, conseils qui sont vraiment autour de la production du nécessaire, la distribution. On ne peut pas s'en contenter parce qu'il dit, en fait, ce n'est qu'une seule dimension de la vie, ça. C'est seulement la dimension de survie, la dimension de base. Mais puisqu'on veut aller beaucoup plus loin que ça, il faut qu'on puisse aussi se réunir pour décider de toutes les autres choses. Et même pour ces choses-là, il y a des choses qui sont plus fondamentales encore que comment on va organiser telle usine ou telle production agricole. Il faut d'abord se demander comment on aménage le territoire, c'est-à-dire comment est déterminée la propriété du sol, à qui ça appartient le sol. Et donc, il faudrait pouvoir s'emparer d'un pouvoir communal qui puisse dire on met toutes les terres de la commune en commun pour les collectifs qui vont les travailler, par exemple. Enfin, c'est à la communauté de décider comment elle va, les modalités qu'elle voudra faire. Mais le but, c'est ça. Et même chose, les bâtiments communaux, et on pourrait dire aussi les instruments, les machines. Comment mettre tout ça en commun ? C'est une assemblée qui doit décider de ça. Il y a besoin d'une coordination de l'ensemble des activités du territoire. Donc, ça ne suffit pas d'avoir chaque fois, disons, à la manière syndicaliste plutôt, donc seulement des regroupements de travailleurs. Donc tout ça, jusque récemment, on avait l'impression que c'était un programme tellement colossal qu'on ne savait pas trop par où le commencer. Et puis, en France, il y a eu ce mouvement, l'année dernière, des Gilets jaunes, qui a débouché, alors ce n'est pas tout le mouvement, c'est une partie, un courant en son sein, qui a débouché sur la proposition de faire des assemblées populaires générales. Donc générales, ça veut dire tout le monde est convié. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de venir. Ceux qui n'ont pas envie, tant pis pour eux. Les choses se décideront sans eux. Il n'y a pas de coercition. Mais en tout cas, tout le monde est convié. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et donc de faire des assemblées où on vise à reprendre donc ce pouvoir sur nos vies, ce pouvoir sur toutes les dimensions de nos vies. Et donc, ils ont organisé notamment à Commercy, en janvier déjà de l'année dernière, l'assemblée des assemblées, où il demandait à toutes les assemblées de gilets jaunes du territoire français, bon, c'est quand même un mouvement national, de se réunir à Commercy et d'échanger sur leur manière de faire, les difficultés qu'ils rencontrent et comment aller plus loin dans ce mouvement, comment le pérenniser en fait. Parce que c'est un mouvement qui a eu une longévité tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable, mais qui a subi une répression telle dans ses formes de manifestation, d'occupation et de blocage, une répression tellement violente que il s'est quand même essoufflé petit à petit et maintenant il a du mal à reprendre après l'été, sous cette forme-là. Donc eux, ils avaient préparé ça déjà avant. Ils ont dit, il faut trouver une forme pérenne, une forme qui puisse s'installer et qui puisse aussi aller plus loin. Parce que jusque-là, un mouvement qui, comme ici en Belgique, fait des manifestations massives pour le climat ou pour la justice sociale ou pour la justice fiscale, contre l'évasion fiscale, etc. Il vise quoi ? Il adresse une revendication au pouvoir politique. Il adresse une revendication au gouvernement. Mais le gouvernement, pourquoi il serait sensible à cette revendication ? Puisqu'il sait très bien que c'est ça que la population attend, et il sait très bien aussi qu'il ne va jamais le lui accorder. Parce que c'est contraire à ce qui pousse de l'autre côté, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et de la finance. Et donc, leur besoin de contrôle, évidemment, je veux dire, le besoin intrinsèquement politique de leur part de maîtriser, de contrôler l'ensemble des décisions. Donc, ils ne vont pas le faire. Alors, à quoi ça sert de continuer à demander à une autorité dont on sait qu'elle ne va pas le donner ? Donc voilà, donc je pense que maintenant, quand on voit l'évolution de tous ces mouvements des dernières années, dans tous les pays européens et américains où ça se passe, on voit bien que le pas de côté, il faut le faire. Il faut dire, ils ne vont rien nous donner, on va le prendre nous-mêmes. On va le prendre nous-mêmes et donc on va commencer à s'organiser à côté des institutions étatiques, à côté, sans les affronter directement, parce que ce n'est pas la peine d'aller au casse-pipe. Je veux dire, ils ont la force, évidemment, ils ont toute la force qu'ils veulent. Ils ont la force policière, militaire, judiciaire. Ce n'est pas la peine d'aller tout le temps à l'affrontement. On va s'organiser entre nous, légalement. Et donc, dans cette proposition de reprendre légalement le pouvoir politique, ce qui est aussi propre au municipalisme libertaire, c'est de dire, on va se présenter aux élections municipales. Et ça, quand il a proposé ça, Bookchin, dans les années 70, 80, ça a été plutôt mal pris. Parce qu'il était dans un milieu plutôt anarchiste ou d'une extrême gauche très radicale, où on pensait que rien de bon ne pourrait sortir de l'élection. Et aussi, on a assisté dans les années 80 à la récupération des partis écologistes. Donc les partis qui sont entrés dans des gouvernements de coalition en pensant qu'ils obtiendraient quelque chose contre d'autres concessions et qui finalement n'ont pas obtenu grand-chose. En fait, ce sont la plupart du temps fait déborder ou récupérer ou ont perdu en fait leurs idées de départ. En fait, ils voient que l'expérience ne fonctionne pas. Et donc, l'idée de la proposition de se présenter aux élections a d'abord été très, très mal prise. Mais il a sorti... Bookchin, il l'a sorti, cette proposition, de toute une série de conditions. Il dit, premièrement, il faut le faire uniquement au niveau local, uniquement au niveau municipal ou communal. Parce que là, en fait, la population se connaît. On peut se connaître. On peut connaître les gens, on peut leur parler directement. Et puis, on peut faire connaître une proposition, diffuser la proposition qui est, si on arrive à faire passer une liste qui est majoritaire au conseil municipal, cette liste s'engage à donner tout le pouvoir à l'Assemblée populaire générale. Donc, elle, en quelque sorte, elle prend le pouvoir pour le redonner à tout le monde, pour le supprimer en tant que pouvoir institutionnel, en tant que pouvoir hiérarchique tel qu'il existe actuellement. Et c'est seulement à cette condition-là, évidemment, que c'est intéressant de se présenter aux élections. C'est seulement s'il y a une telle proportion de la population d'un certain quartier ou village qui est favorable à ça, que alors ça vaut la peine que cette liste passe. Et donc, elle abolisse, en somme, la hiérarchie institutionnelle et qu'elle donne tout le pouvoir à l'Assemblée. À ce moment-là, évidemment, l'Assemblée pourra vraiment réaménager les choses, aussi bien socialement, économiquement, réorganiser la mise en commun et donc permettre aux gens aussi de travailler moins ou de ne pas être dans la galère parce qu'ils n'ont pas de travail. Toute l'idée, c'est aussi de rétablir une justice sociale, simplement une dignité de la vie même dans ses bases de survie. Alors si au contraire on se trouve dans un cas, ce qui sera sans doute fréquent au début, où il n'y a qu'une minorité de la population qui est convaincue, Alors le fait de se présenter aux élections peut servir simplement de faire connaître son programme. Et on peut convier des assemblées justement où on discute, où on se réunit juste pendant la campagne, hein, en profitant de du débat qui normalement doit accompagner une campagne, donc en profitant de ce débat pour discuter de quels sont tous les problèmes de la commune, quels sont les souhaits, quelles sont les choses qui doivent absolument changer, à quelles conditions elles pourraient changer, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, et donc inviter les gens à venir discuter. Et puis progressivement dire, mais essayons au moins déjà d'améliorer ce qui peut être amélioré tout de suite. Mettons déjà des choses à la disposition de tout le monde, etc. Et donc, de cette manière-là, progressivement, le mouvement va prendre de l'ampleur. En commençant par le noyau des gens les plus sensibles, les plus convaincus, ça va progressivement inclure des gens qui voient qu'il y a des réalisations immédiates, même si elles sont modestes au départ. Et puis, on ne va évidemment pas prendre un pouvoir communal partiel. Hein, donc, ne pas entrer dans une coalition, sinon on est coopté, détourné. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, ça, c'est la proposition de municipalisme libertaire. Et alors, avec l'idée que, évidemment, on essaye que ça se passe à beaucoup d'endroits en même temps, on est tous en relation, donc on forme un réseau, et c'est, je pense que c'est aussi un des objectifs de ces journées, c'est d'essayer de constituer un tel réseau, c'est-à-dire vraiment se dire, partout où chacun de nous se trouve, qu'est-ce qu'il peut essayer de faire pour lancer ce genre d'initiative ? Donc ça peut être assemblée politique, ça peut être simplement une assemblée de quartier où on se contente de discuter dans un premier temps, ça peut être comment on fait un maximum de mise en commun, comment on s'autonomise au maximum par rapport au capitalisme, comment on s'autonomise au maximum par rapport aux banques. Bon, tout ça, hein, selon les endroits, selon les groupes de personnes, on verra ce qui est réalisable en premier lieu. Mais donc notre objectif, c'est aussi de relier tout ça pour échanger des trucs qui marchent et pour se soutenir les uns les autres et puis pour commencer à être complémentaires. Donc notamment complémentaires entre les villes et les campagnes, hein, entre les types de production qu'on peut faire dans un cas et dans l'autre, etc. Voilà, et donc je ne veux pas m'apesantir plus. Bon, peut-être qu'il y a d'autres, qu'il y a des objections, parce qu'il y a eu des objections qui ont été adressées à Bookchin et à cette proposition d'écologie sociale. Mais je pense que, de toute façon, c'est de ça qu'on va discuter dans les ateliers. Donc les ateliers, les thèmes des ateliers reflètent assez bien ces questions. Hein. Donc il y en a un sur comment réaliser une démocratie directe, donc s'emparer d'un pouvoir municipal, mais donc d'assemblée politique. Il y en a un sur comment réaliser l'autogestion des ressources, l'autogestion économique. Je ne sais plus les autres exactement, mais en fait, c'est tous des aspects, en fait, du même projet. Donc en fait, tous ces ateliers se recoupent aussi les uns les autres. C'est le même projet qui doit attaquer sur tous les fronts. Voilà la proposition.
Après cette introduction à l'écologie sociale, la même oratrice, Annick Stevens, de l'Université populaire de Marseille, informe des résultats de la rencontre et ouvre des perspectives pour la suite du mouvement. Un enregistrement rendu possible grâce à Christian de Peer FM, un programme de la radio 48 FM à Liège.
Je vais présenter la synthèse de l'atelier qui s'appelait « Démocratie directe et municipalisme libertaire ». Le but de cet atelier, c'était de mettre en œuvre la démocratie directe communaliste ou municipaliste libertaire et aussi de créer un mouvement international. On a mis un certain temps à se mettre d'accord sur une méthode et aussi sur ce qu'on entendait par ces mots, démocratie directe, municipalisme. Et donc au départ, ça a été un peu difficile de voir vers quel objectif on avançait. Mais finalement, on est arrivé à des propositions d'action, à la fois au plan local et au plan international, donc qui correspondent à l'objectif de départ. Au plan local, ce qu'on propose, c'est la fondation d'assemblées populaires communalistes. On sait qu'il y a déjà un groupe à Liège et un autre à Bruxelles qui ont décidé de prendre en main donc, ces fondations. Et ça consiste à établir une assemblée totalement ouverte et dans laquelle on va inviter tous les gens qui s'occupent d'alternatives autogérées sur le territoire concerné, donc de type écologique, de type pour se réapproprier une certaine activité nécessaire à la vie,
Et donc proposer à toutes ces initiatives de participer à l'Assemblée, sachant qu'on n'y participe pas individuellement et pas en tant que groupe. Et que aussi, ce que fait l'Assemblée, ce n'est pas du tout fédérer ou chapeauter toutes ces initiatives, mais c'est plutôt que c'est leur donner leur dimension politique. Donc par exemple, si il est question de s'occuper d'un potager collectif, l'Assemblée ne doit pas s'occuper de ce qui va être planté dans ce potager, mais elle s'occupe de, au niveau politique, comment on fait pour s'approprier une terre pour faire ça. Donc c'est un exemple. Et il entre aussi dans les tâches de l'Assemblée d'essayer de profiter de mobilisations autour de luttes contre des grands projets inutiles et nuisibles, par exemple des projets d'autoroutes, de centres commerciaux, tous les grands projets qui sont très mauvais pour l'écologie. Donc de se mobiliser beaucoup plus largement autour de chacune de ces luttes qui restent trop souvent simplement à l'échelle locale. Et on propose aussi alors de créer un groupe de travail qui s'occupera de ces fondations d'assemblée et un autre groupe qui serait plus spécialisé sur le site internet qui existe déjà, donc qui a été sur lequel ont été publiées ces rencontres, donc écologiesociale.be, mais développer alors ce site pour accueillir les assemblées qui se créent, pour introduire la possibilité de mettre des commentaires, pour mettre de la documentation, des références pour parler de toutes les initiatives qui existent, donc un site vraiment vivant et qui accompagne le processus. Donc ça, c'est pour le niveau local. Alors, pour le niveau international, il s'agit de jeter les bases, commencer, initier ce qui serait une confédération de toutes les assemblées populaires communalistes dans le monde. On sait que, bon, ici, dans ces rencontres, il y a de telles assemblées déjà existantes ou qui vont se créer en France, en Belgique, au Rojava, bien sûr. Et puis, on sait aussi qu'il en existe ailleurs dans le monde, certaines qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et donc, tout ça, il faudrait qu'il y ait un groupe de travail aussi qui s'engage à aller voir dans tous les pays ce qui existe, qui va vraiment dans le même sens, donc dans le sens de l'écologie sociale, et donc leur proposer de se confédérer ou de rejoindre une confédération qui existerait déjà. Et ça implique aussi de rédiger ce qu'on a appelé une charte, c'est-à-dire un ensemble de principes de base de l'écologie sociale et du communalisme ou du municipalisme libertaire, c'est-à-dire le minimum de principes qui fondent ce que c'est et donc qui disent aussi dans quoi on s'engage pour que ça n'englobe pas des choses qui soient contradictoires avec nos principes. Et ça permettrait aussi d'organiser une solidarité internationale pour soutenir des initiatives qui seraient agressées, que ce soit agressées par des États ou agressées par une situation de guerre ou une situation de précarité matérielle, enfin voilà, d'avoir une organisation de solidarité internationale. On pourrait aussi d'ailleurs organiser des événements tous ensemble, un même jour, partout dans le monde. Prendre une thématique et puis ce jour-là, on fait tous des événements identiques organisés par les différentes assemblées locales. Et puis alors il y a un quatrième axe, et donc qui serait sans doute un quatrième groupe de travail qu'on propose de mettre sur pied, qui serait l'organisation des prochaines rencontres internationales de l'écologie sociale, donc ce sera les quatrièmes, qui seraient sans doute organisées dans 2 ans. Et on ne sait pas encore exactement à quel endroit, c'est quelque chose justement où il faut contacter des pays différents pour voir quel groupe se propose de les organiser. Alors pour ça aussi, on propose que la préparation soit plus aboutie que celle de ce groupe, de ces rencontres-ci. Non pas que celle-ci ait eu des problèmes d'organisation localement, ça roulait parfaitement, mais il y avait beaucoup de gens qui arrivaient en n'ayant pas vraiment de connaissance de ce que c'était l'écologie sociale et qui n'ont pas vraiment eu le temps de l'apprendre, puisque en même temps, on était en train d'avancer sur des constructions qui supposaient quand même qu'on connaisse les rudiments, quoi. Donc ça a été un peu difficile de mener les deux objectifs en même temps. Et pour pouvoir intégrer tout le monde aux prochaines rencontres, ce serait bien qu'il y ait des formations préalables et donc que les fédérations locales ou la confédération internationale donc s'occupent de organiser des groupes de lecture, des livres importants, d'organiser carrément des formations. Pourquoi pas de créer des instituts d'écologie sociale, comme il en existe au Vermont, donc créé par Bookchin. Et donc que ces ateliers permettent aux gens d'arriver avec un certain bagage et donc de commencer tout de suite à avancer dans ces prochaines rencontres. Donc ça, ce serait un quatrième groupe de travail sur l'international.
Vous étiez à Liège en septembre 2019 aux rencontres de l'écologie sociale et l'oratrice était Annick Stevens de l'Université populaire de Marseille. Thank you.